I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, un média web féminin que j'ai lancé en 2005 et revendu et quitté durant l'été 2020 après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de trois autres podcasts, Histoire de Daron où j'interviewe des pères sur leur paternité, Histoire de Mec où je fais parler des mecs, de masculinité et un dernier intitulé La Reco de FabFlo qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Cette semaine, je reçois William Ovette, qui est fondateur et PDG d'Asphalt, l'une des marques de mode masculine des plus en vogue sur Internet ces dernières années. Si vous êtes un mec, vous avez forcément vu une de leurs pubs sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Ils sont très forts pour ça. William raconte comment, à partir d'une marque de mode qui n'a pas vraiment rencontré le succès escompté, ils ont fini par créer Asphalt et trouver leur martingale avec un astucieux système basé sur la précommande. Tout est parti d'un t-shirt basique et d'un crowdfunding sur Ulule pour arriver aujourd'hui à une marque qui habille plus de 70 000 mecs en France. On discute de plein de choses dans cet épisode, de l'éthique de la marque à l'image de l'homme dans leurs vidéos, en passant bien sûr par l'avenir et l'ambition de William pour Asphalt. J'espère que cet épisode vous plaira. Merci beaucoup à William pour sa disponibilité. On est avec William Ovette. Salut William.
Hello, hello. Salut à tous.
Comment ça va ?
Ça va très bien, merci. Tout va bien.
William, tu es le CEO. C'est comme ça que je dis. T'es le boss, en fait, et le créateur de la marque Asphalt.
Tout à fait.
Qui est une marque de mode, qui a un modèle de distribution et de création un peu particulier. Tu vas nous en parler un peu après. Et en fait, sans doute, si vous avez cliqué une fois, vous avez sans doute vu, si vous faites partie de la cible, on va dire masculine, 30, 40 ans, 50 ans, c'est ça ? C'est
ouais,
à peu près ça, votre cible ?
À peu près, oui.
Vous avez sans doute vu des pubs sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, etc. En tout cas, votre promo est plutôt bien faite parce que c'est dur de passer à côté quand tu fais partie de la cible. Donc, bien joué pour ça.
Merci. William,
on va reparler ensemble de ce qui t'a amené à créer cette marque Asphalt. J'ai cru comprendre qu'il y avait avant ça un premier projet de ouais, mode aussi qui a été un peu plus compliqué à mettre en place, mais qui t'a sans doute amené, toi, à créer Asphalt, en tout cas à t'amener des idées, quoi.
Ouais, exactement.
Mais avant ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, William, quand tu avais 7-8 ans ?
7-8 ans. Alors, le premier truc qui me vient en tête, c'est le foot. Je passais beaucoup de temps avec mon ballon de foot. Je me souviens très bien d'ailleurs de quel anniversaire c'était, mais je me souviens de la première fois où mes parents m'ont offert un ballon de foot à mon anniversaire. J'étais comme un dingue. C'était un ballon magnifique. Vraiment le ballon classique des années 90, tu sais, noir et blanc, là.
Ouais.
Très beau. Et donc voilà, donc 7-8 ans, je pense que je commençais à jouer au foot et tout de suite j'ai été très vite très mordu. Et sinon écoute, j'étais plutôt un enfant, franchement, j'ai la chance de venir d'une famille hyper heureuse et aimante, mes parents, ma grande sœur, mon petit frère, et voilà, j'ai que des très très bons souvenirs de cette enfance, des étés passés dans le sud où on avait la chance d'avoir un grand-père qui avait une maison, et du coup on passait 2 mois avec les cousins. Je me souviens de dire à mes parents que mon meilleur pote c'était mon cousin, enfin voilà, c'était ça, 7-8 ans, très heureux, je crois.
Ok. Ah oui, t'as fait un bac ES, c'est ça, j'ai entendu. C'est important,
ouais,
parce que
c'est, ah bon, ça.
Bah en fait, je sais pas, mais j'avais un peu la sensation que ça t'a un peu initié au sujet de l'économie, en fait.
Oui, alors tout à fait. Non, ça c'est vrai. Ouais, effectivement. Alors autant j'ai eu une enfance jusqu'à, je dirais 12, 13 ans, vraiment très heureuse. Autant j'ai eu un vrai passage à dur pendant l'adolescence, où je fumais beaucoup de pétards et ça m'a rendu assez malheureux. Et ça m'a totalement désintéressé de tout, hein, du foot y compris d'ailleurs, mais aussi beaucoup de l'école. Et du coup, j'étais assez mauvais. J'ai redoublé ma seconde. Et en fait, ce qui m'a rattrapé effectivement d'un point de vue scolaire, en tout cas, c'était les cours d'éco. D'ailleurs, ça a commencé en seconde, je crois, mais c'est surtout à partir de la première que j'ai commencé à kiffer l'éco. Et ça a commencé à me donner des idées sur qu'est-ce que je voudrais faire plus tard. Ouais.
Comment t'as, petit conseil pour tous les jeunes qui nous écoutent et qui fument trop de pétards, comment t'as réussi à t'en sortir?
Mon conseil, c'est d'arrêter totalement. même si maintenant j'en fume de temps en temps, mais occasionnellement, et j'aime toujours bien ça. Mais non, je pense que en tout cas, ça dépend vraiment des ados. Mais moi, je suis très sensible à ce produit-là, en tout cas. Et du coup, moi tous les côtés négatifs, je les ai eus en plein dans la gueule. Et comment arrêter? Alors franchement, moi j'ai fait un truc assez radical, hein. C'est que j'ai changé de bande de potes, en fait. Et ça n'a pas été facile parce que c'était des potes que j'adorais, mais c'était la seule solution. Et voilà, du coup j'ai fait ce truc assez dur et assez radical. Et même si c'est triste. Je pense que ça m'a beaucoup aidé.
Ok. Je vois pas d'autres solutions, en fait, en vrai. Parce que c'est souvent les potes qui
t'engraînent. Bah, si on peut motiver tous ses potes à arrêter en même temps, mais c'est chaud. On peut être sacrément bon.
très bien. Si j'ai bien compris, tu fais ensuite une école de commerce. Enfin, un parcours peu classique, mais tu décides de monter ta boîte tout de suite, quoi.
Ouais, carrément. En fait, j'ai fait un petit bout de fac avant d'aller en école de commerce. Après le bac, je suis allé à la fac et ensuite je suis allé en école de commerce. Et effectivement, pendant ce parcours fac école de commerce, je commence à sentir que j'ai très envie de monter des boîtes dans ma vie et que j'ai très envie d'en faire mon métier. Il y a notamment la lecture d'un bouquin qui est une des bios de Richard Branson, le fondateur de Virgin, qui est encore aujourd'hui un de mes role models d'un point de vue entrepreneuriat. Qui me donne vraiment envie d'essayer d'avoir la vie la plus proche de celle de ce gars-là. Je prends quelques conseils et en fait, il y en a notamment un très bon qui m'est donné, qui est, franchement, tu peux commencer à entreprendre juste après les études puisque tu sais même pas ce que c'est que d'avoir un salaire, t'as pas d'enfant, donc c'est facile, t'as rien à perdre. Et je pense que c'était un très bon conseil, même si effectivement tu pars avec zéro expérience, donc au début, t'es quand même sacrément mauvais. T'as rien à perdre, donc c'est pas mal.
Elle te vient d'où cette fibre entrepreneuriale? Parce que tes parents ont monté leur boîte ou?
Ouais, en fait, je pense qu'elle coule un peu dans les veines quand même dans la famille, parce que on est 5 et on a 6 sociétés dans la famille, donc on est tous entrepreneurs en fait. Donc je pense qu'elle coule un peu dans les veines. Et du coup, ouais, je pense que c'est dans les veines. Je sais pas si c'est dans les veines. C'est dans sans doute un peu l'éducation que nous a donné nos parents inconsciemment de faire notre route et de créer la vie dont on a envie, quoi. Je crois que ça vient de là. Et après, un peu de ça. Et ensuite, vraiment aussi très concrètement, moi, quand j'ai commencé à lire justement des bios d'entrepreneurs, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. À lire des blogs là-dessus, etc. Franchement, je me suis passionné de ça comme je me suis passionné de foot quand j'ai commencé le foot, quoi.
Ok. Tu fais les decks, c'est ça?
Ouais, exactement.
Tu fais les decks à Lille?
Non, à Nice. Moi, je choisis le soleil, la mer et la montagne.
et en sortant de là, tu crées donc une marque, c'est ça, qui s'appelle 6 et 7?
6 et 7, ouais, exactement, avec un pote de promo du coup à qui je propose cette idée. En fait, pendant mon année de césure où je fais des stages et ma dernière année à l'EDEC, j'ai réfléchi à des idées de boîte. C'est assez varié, ça va de la startup tech à la sandwicherie jusqu'à la marque de pull. Et c'est cette idée de marque de pull finalement sur laquelle je m'accroche. Et qui, a posteriori, je me dis que c'est parce que, en fait, j'ai toujours bien aimé les vêtements, sans être un fan de dingue de vêtements, mais j'ai toujours bien aimé ça. Et surtout, j'ai toujours adoré les marques, en fait. À partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et un peu au business au sens large, les marques, en fait, les histoires de marques, de valeurs, de ce que représente une marque et tout, m'ont tout de suite beaucoup parlé. Donc j'ai en fait j'avais hyper envie de créer des marques, enfin une marque quoi. Donc j'ai cette idée de marque de pull et je propose à un de mes potes d'école de s'associer avec moi et on démarre juste après les études, ouais, sans rien y connaître.
Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est de loin l'un des business les plus difficiles, en fait, la mode. Mais à l'époque, tu le sais?
Je sais pas si c'est un des business les plus difficiles, honnêtement. Je sais pas s'il y a une hiérarchie dans les business. Non, franchement, je pense pas trop qu'il y ait des hiérarchies dans les business. Mais non, j'y.
Déjà, en termes de produits, juste pour te dire, en termes de produits, t'as forcément différentes tailles, etc. Là où, en fait, quand tu crées un produit solo, tu crées un produit solo, quoi, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Mais bon, franchement, chaque marché a ses difficultés. Et peut-être que, en fait, s'il y a un marché un peu plus facile, bah, en fait, peut-être qu'il y a plus de monde qui y va. Et du coup, il devient un peu difficile. Donc, non, je pense que c'est assez équilibré. Enfin, en tout cas, j'ai jamais trop raisonné en hiérarchie de marché. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'on part heureusement et malheureusement avec une naïveté hallucinante et on se dit que tout est possible et du coup, on se prend des baffes chaque jour et en même temps, si on n'avait pas cette naïveté, on n'y serait jamais allé, quoi.
C'est quoi les grosses baffes que tu prends et qui t'amène à créer Asphalt ensuite?
Bah, la grosse baffe, c'est que ça marche pas, quoi. C'est ça la plus grosse baffe, hein. C'est que tu sens bien que tu fais un truc et que ça fait pas trop vibrer les gens, financièrement c'est compliqué, ça te fait même pas toi trop vibrer, du coup ça rend ta relation de travail avec ton associé et tes employés pas hyper épanouissante parce que c'est pas la teuf, quoi. Donc en fait c'est une espèce de baffe continue qui est le fait que t'es face à la réalité t'es en train de ramer, quoi. T'entreprends, c'est ta passion, donc c'est comme si t'étais footballeur mais que t'étais en Ligue 3, quoi, tu vois. T'es là, putain, tu te dis, putain, c'est ma passion, mais franchement c'est relou quand même, je suis en train de ramer et je gagne pas bien ma vie. Enfin, ça se trouve en D3 ou en Ligue 3 ou en National, ils gagnent bien leur vie, je sais pas trop, mais voilà, en tout cas moi je gagnais pas ma vie, c'était dur, quoi.
La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que ça marche pas à ce moment-là?
Alors, d'un point de vue très pratique, c'est que la marque et l'offre est mal positionnée. Donc, il n'y a pas de ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire que l'offre ne rencontre pas son marché, quoi. Donc, chaque euro de chiffre d'affaires, faut se battre pour le faire. Il n'y a pas un truc où tu pousses un peu d'un côté et puis ça prend. C'est vraiment chaque euro, faut aller le chercher. Donc, c'est fatigant. Et après, peut-être un peu plus philosophiquement, moi, j'ai l'impression que c'est parce que c'est parce que ce projet me ressemblait pas assez. Donc, c'est difficile de faire un truc qui nous ressemble pas.
Et tu dis que en plus le produit, en tout cas la boîte, te fait pas vibrer non plus, quoi.
Ouais, elle me fait forcément vibrer au départ parce que c'est nouveau, etc. Et puis quand ça commence à patiner et que heureusement il y a des petits moments, hein. Il y a des petits moments où on se dit ah putain ça c'est cool, il y a des petits moments où on fait les choses bien, des petits moments où il y a des bonnes nouvelles et tout, heureusement. Mais, il n'y a pas un. Je sens pas le truc, quoi. Je me dis pas, putain, c'est la folie, quoi. Je suis en train de kiffer.
Vous faites ça quand même pendant pas mal d'années, non? Parce que l'air de rien.
Ouais, on fait ça pendant. Alors, la marque a existé, je crois, pendant 5 ans. Il se trouve que nous, on a bossé 9 mois avant qu'elle existe. Et en fait, à la fin, elle existait, mais en parallèle d'Asphalt. Donc, mon associé et moi, on travaille 4-5 ans ensemble. Ouais. Donc, c'est pas rien quand même.
Comment tu fais pour tenir le coup pendant 4-5 ans
Alors, en fait, je suis pas malheureux pour autant. Je pense que j'ai une nature assez... J'ai plutôt une bonne nature, quoi. Donc, je suis pas du genre à déprimer et tout, mais... Donc je suis pas malheureux, mais je suis pas non plus épanoui comme je peux l'être aujourd'hui. Donc ça va. Et puis je pense qu'au fond de moi, je me dis que ce qui me maintient, c'est que je vois bien que j'apprends et que j'évolue et d'une certaine manière, je sais que je suis à ma place. Il y a aucun moment où je me dis putain, je suis peut-être pas fait pour ça. Je doute pas trop, mais donc c'est ça qui me tient aussi.
C'est quoi le déclic en fait qui t'amène aujourd'hui, qui t'amène ensuite vers Asphalt?
C'est le dos au mur, c'est-à-dire pas le choix. En gros, Si on n'avait rien changé, la boîte était morte, quoi. C'était fini. Et en fait, du coup, avant de taper le mur, je me dis qu'il faut qu'on reparte de zéro, qu'en fait, ce qu'on a, c'est pas bon, qu'il faut qu'on arrête de se voiler la face en se disant qu'il faut qu'on modifie un peu le prix, un peu le design et tout. C'est pas ça. Ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est tout le contenu de The Family, qui est un incubateur de start-up à Paris, qui à l'époque met énormément de contenu en ligne, qui est une sorte d'éducation à l'entrepreneuriat, qui est une éducation en fait qui était vraiment inspirée totalement du mindset entrepreneurial qui est dans la Silicon Valley et qui à l'époque, je pense, n'existe pas en France. Et on était vraiment des beginners dans l'entrepreneuriat. Et tout ce contenu-là, je me forme avec ce contenu et franchement, il me change totalement d'état d'esprit. Et il y a notamment une vidéo où on dit voilà, si justement, ce qui parle de ce product market fit. Et en fait, s'il n'y a pas le product market fit, il n'y a pas de boîte. Donc, il faut repartir de zéro et aller le chercher. Et donc voilà, je me dis il faut qu'on reparte de zéro. J'en parle à mon associé. Je sens bien que voilà, il est peut-être pas aussi motivé que moi pour repartir de zéro. Et en plus de ça, ça fait un moment qu'on bosse ensemble. On est un peu fatigués tous les deux. Lui, il a une vie familiale. Oui, il va avoir un deuxième enfant, etc. Donc c'est un peu plus dur pour lui de reprendre encore des risques et tout. Donc en fait, on se met d'accord. Lui, il quitte la société. Je rachète ses parts et je garde 6 et 7, les 3 employés qui y sont. Et on continue de faire tourner 6 et 7 du mieux qu'on peut pour que ça se maintienne. Et à côté de ça, on met de l'énergie pour créer un tout nouveau projet qui va s'appeler Asphalt.
Et donc tu préfères recréer une marque complète, ouais, plutôt que de te dire on va prendre 6 et 7, on va tout remettre à plat et on va...
Ouais, pour deux raisons. D'une part, parce que partir de feuilles blanches me dit que ça va vraiment nous permettre de vraiment repartir totalement de zéro et de pas de se mettre des limites, en fait. Et d'ailleurs, au tout départ, même en repartant de zéro, je me dis que je vais continuer de faire une marque de pull, mais un peu différente. Donc ça prouve bien qu'en fait on a du mal à virer les barrières limites, quoi, au départ. Donc je pense que c'était une bonne chose. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est aussi que en fait il faut que 6 et 7 se maintiennent telle qu'elle est, parce que en fait c'est ça qui quand même malgré tout paye à peu près les salaires, même si c'est à perte. Et donc du coup, si on met ce qu'on a actuellement totalement en risque et que ça marche pas, bah là en fait la boîte elle peut mourir en 2 mois, quoi.
Ok. Comment se passe l'embryon du projet Asphalt?
L'embryon, c'est ce constat qu'en fait, je me dis que ma marque de pull, elle devrait plutôt quand même plaire à des gars qui me ressemblent un minimum, quoi, puisque voilà, moi mes employés, ils sont, à l'époque, on est une boîte, il y a que des mecs, on a tous à peu près le même âge, tous à peu près le même goût, la même idée de ce qu'on veut faire de la marque, et en fait, nos potes n'achètent pas parce qu'on est trop cher. Et du coup, je me dis, putain, mais en fait, c'est complètement con. On va essayer de faire vraiment, nous, la marque dont on rêve. Donc, en fait, on se remet au cœur du truc. On se dit, voilà, on veut faire la marque qui n'existe pas, et qui devrait exister selon nous. C'est-à-dire une marque qui fait de la putain de qualité, de vêtements qui durent, qui a une belle image de marque, qui prend pas les gens pour des cons, qui parle avec un ton hyper relâché et qui coûte pas cher. Pas trop cher, en tout cas. Et voilà, c'est vraiment ça le point de départ. C'est de faire un truc qui va nous faire kiffer et qui va faire kiffer nos potes.
Ok, et ça c'est vraiment d'entrée tu te dis ça, quoi, c'est-à-dire que
c'est vraiment ça. Et d'ailleurs la manière dont je pitch le truc à Antonin et Rodolphe, qui étaient deux de mes employés à l'époque, qui d'ailleurs étaient même pas employés, ils étaient freelance, c'est je leur dis en fait combien t'as de potes qui ont acheté un de nos produits dans les 6 derniers mois et combien t'as de potes qui ont acheté nos produits plein pot. Et en fait, c'était, tu vois, il y en avait peut-être 2 qui en avaient acheté et 0 qui avaient acheté plein pot. Ils attendaient tous les soldes à -50. Donc, non, vraiment, le point de départ, c'est de dire, en fait, regarde, on sait pas à qui on parle. On a aucune maîtrise sur notre client. Notre client, il nous ressemble pas. Du coup, on sait pas lui parler. C'est trop chiant. Et nous-mêmes, on n'est pas les propres clients de la marque. C'est un gros problème. Ça peut pas fonctionner comme ça.
D'où te vient l'idée du... Parce que vous allez lancer un crowdfunding,
ouais,
avec Ulule, qui, j'imagine, va vous permettre de tester l'idée, quoi. D'où te vient cette idée de lancer un crowdfunding?
Alors, en fait, l'idée du crowdfunding, elle vient de 2 choses mêlées. D'une part, il y a une marque aux States qui fait du crowdfunding, mais pas juste pour se lancer. C'est-à-dire que son business model, c'est de faire du crowdfunding. C'est de dire, tu peux acheter à un prix beaucoup plus bas et tu vas devoir attendre puisqu'on va lancer la production derrière. Et je trouve ça assez intéressant. Et en fait, nous, en parallèle, on avait déjà commencé à présenter les collections de 6 et 7 à nos copains 6 mois avant, parce qu'en fait, elles étaient prêtes, ces collections. On avait des catalogues qui étaient à destination des boutiques multimarques qui font leurs achats 6-9 mois plus tôt. Et donc, nos potes, on leur avait présenté ces catalogues en leur disant, bah, si tu veux, tu peux acheter maintenant à moins 50% et tu seras livré dans 6 mois. Et en fait, ça marchait bien. Et donc là, je me dis, putain, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, on teste de manière un peu plus grosse sur 6 et 7 le fait de, on essaye de faire diffuser ce catalogue, justement, pas que à nos 50 ou 100 potes, mais on fait un groupe Facebook où on invite genre 1000 personnes qui sont des potes de potes et tout. Et on fait diffuser ce catalogue et les gens, on leur dit, bah voilà, matez le catalogue, envoyez-nous un mail en disant ce que vous voulez acheter. Et du coup, vous l'aurez à moins 50%, ce sera livré dans 6 mois et on vous enverra un lien vers une cagnotte Litchi pour que vous nous payiez. Enfin, c'était vraiment, quand je te dis que c'était à l'arrache, c'était à l'arrache. et en fait, ça a super bien marché. Et donc là, on se dit, OK, franchement, c'est un super modèle économique et c'est une super manière justement de résoudre l'équation qu'on veut résoudre avec cette nouvelle marque qui est faire de la qualité accessible. Et donc on se dit, OK, Asphalt, ce sera une marque où on fera que du crowdfunding. Et donc, pour avoir le moins de risques possible, on démarre le crowdfunding sur une plateforme de crowdfunding. Ça nous évite d'avoir à développer un site internet. Et donc, on démarre sur Ulule en se disant qu'après, tous les autres produits, on les sortira avec le même fonctionnement, mais sur notre site à nous.
Waouh. Et ça, comment dire, le crowdfunding, vous, le premier jour, vous cartonnez?
Ouais, le crowdfunding, il démarre tout de suite très fort. Franchement, c'était vraiment dingue, quoi. On le prépare énormément, on fait beaucoup de contenu, on implique les gens, on avait déjà, du coup, on avait la chance d'avoir une petite base email de 6 et 7, et donc on leur dit, voilà, on va créer ce nouveau projet, vous pouvez nous suivre et tout. Et voilà, donc, et dès le premier jour, ouais, on vend 300 pulls le premier jour, à 100 balles, donc on fait 30 000 euros de chiffre d'affaires le premier jour. Sur Ulule, on n'avait jamais fait 30 000 euros de chiffre d'affaires en un jour sur notre site 6 et 7 en 4 ans, quoi. Et en un mois, on avait vendu 2438 pulls. Donc, on fait quasiment 250 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois de l'histoire d'Asphalt. Donc, c'était ouf, quoi. Ouais.
Ah, j'imagine. Et toi, de ton côté, alors c'est marrant parce que ce pull, vous l'appelez le pull parfait.
Ouais.
Donc, on sent déjà de base que vous.
On sent la modestie, vous... les gars.
Non, mais on sent qu'il y a, comment dire, qu'il y a une volonté, en fait, de positionner la marque de façon assez clair et peut-être décalé, quoi.
Ouais.
Ça vous vient d'où, en fait, cette idée de l'appeler le premier produit le plus parfait, quoi?
Bah, c'est, en fait, ça vient en toute logique sur, on travaille beaucoup aussi sur le ton de la marque, sur, voilà, on travaille beaucoup sur le produit, évidemment, cette idée de business model, de vision, de dire, voilà, comment on peut résoudre cette équation. On travaille aussi énormément sur le contenu, le marketing, voilà, c'est important aussi, pour nous, d'avoir un discours qui parle aux gens, qui soit cohérent, etc. Et en fait, on se dit, je pense qu'il y a un côté, justement, le côté tellement dos au mur, il y a un côté un peu, on va se lâcher. C'est notre dernière cartouche et il faut pas qu'on la regrette. Et donc, feu, on fait vraiment, on se lâche, quoi, on y va. On se dit, nous, c'est comme ça qu'on aimerait qu'une marque un peu moderne nous parle. Donc, on y va et donc, on fait des vannes, on parle en verlan, on met des gros mots parfois. le nom des produits, le pull parfait, en fait, c'est un peu le nom de code du produit au départ, parce que l'approche dès le début, c'était de dire, OK, ça fait 5 ans qu'on fait des pulls, mais là, on va essayer de faire le pull killer, quoi, celui qui gomme tous les défauts que peuvent avoir les pulls et qu'on connaît bien, parce qu'on les a vus et qu'on connaît bien aussi, parce que beaucoup de gens dans la communauté nous les ont remontés, puisqu'on fait un questionnaire. Et donc c'était le nom de code du produit. Et à un moment, on se dit bon, allez, on va l'appeler le pull parfait ou pas. Et on se dit bah ouais, franchement, allons-y. Ça participe à ce côté un peu brut, direct, ce ton sans filtre. Et puis ça sonne bien, pull parfait. Donc on le garde.
Et hop, petite pause auto-promo dans cette interview. Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Il y a un truc que tu viens de placer là juste comme ça, mais c'est qu'en fait, vous faites un questionnaire. Ouais. Et moi, la première fois que j'ai découvert Asphalt, j'ai été bluffé en fait par la démarche parce que vous faites tout simplement un truc vraiment basique, c'est-à-dire avant de créer un premier produit, vous allez demander à vos clients quels sont par exemple les trucs qui déconnent quand vous avez acheté un manteau, tu vois. C'est tellement malin et en fait c'est basique, mais en même temps ça vous êtes juste intéressé à ce que le client voulait et demandait, quoi, tout simplement.
Ouais carrément. Et c'est vrai que c'est tellement basique.
Ça devient d'où cette idée?
Ça vient de en fait c'était avec Rodolphe qui s'occupait déjà du coup un peu du marketing de 6 et 7. Cette idée, elle nous vient en fait dans cette idée de dire ok, en fait, on veut. On avait tout de suite la vision de ce qu'on voulait faire. On voulait investir en fait assez restreint. On s'était dit en fait, je pense qu'aussi on a fait beaucoup de choses à ce moment-là en réaction avec ce qu'on faisait chez 6 et 7 et qui nous déplaisait. Chez 6 et 7, on était une marque, on faisait que des pulls. On avait des revendeurs, donc on devait faire des salons pour présenter les collections. Et donc on était obligé d'avoir des collections un peu larges, sinon ça remplit pas le stand du salon. Et donc en fait, on faisait beaucoup de pulls. Et donc là, à l'inverse, on disait ok, on va faire le pull. Genre, tu vois, si tu devais avoir un pull dans ton placard, c'est celui-là. Et donc ce pull, c'est le pull parfait. Et quand t'essayes de faire le pull parfait, tu dis ok, il faut que tu peux pas te louper. Et donc on se dit faut qu'on demande aux gens en fait, c'est quoi le pull parfait pour eux? C'est quoi? Est-ce qu'ils veulent un pull en coton, en cachemire, en laine? Est-ce qu'ils veulent un col rond, un col V? C'est quoi les problèmes qu'il faut? Et donc en fait, ça vient assez naturellement. Et donc on envoie ce questionnaire et ce questionnaire, les gens sont comme des oufs. En plus, c'est l'opportunité de créer une relation avec les gens, une communication, d'avoir du feedback, enfin c'est la folie en vrai. Ça te permet de faire un meilleur produit et de créer un lien très fort. Et en plus ça te permet d'obtenir des emails puisque les gens à la fin des questionnaires on leur dit si vous voulez suivre le projet laissez votre email. Donc en fait techniquement ça nous fait une base email sur laquelle on peut communiquer. Enfin c'est la folie, c'est trop bien.
Et donc vous allez développer aussi un produit qui, enfin donc un pull en rapport avec les réponses du questionnaire et notamment un pull qui va faire en sorte de boulocher le moins possible parce que l'un des trucs du pull c'est que assez rapidement il part en couille, quoi.
Ouais carrément. Ouais c'est clair, il y a ça, il y a bouloche, il y a le rétrécissement. Puis après il y a les trous. C'est un des produits sur lequel il y a le plus de. Par essence la maille, donc tout ce qui est tricoté c'est parmi les vêtements les plus fragiles, donc c'est clairement ce produit sur lequel avec le recul je me dis que c'était un super produit pour démarrer, quoi. Nous on l'a fait parce qu'on avait un peu l'expertise, mais même de manière générale c'est un super produit pour démarrer et pour bien positionner la marque.
Pour parler un peu plus techniquement, vous êtes même allé jusque chez votre fabricant pour réfléchir avec lui à comment faire la maille la plus solide, c'est ça?
Exactement. En fait, on est même allé, on est allé plus loin que ça parce que aller chez le confectionneur ou le tricoteur, en l'occurrence, c'est assez classique d'aller voir ses fournisseurs et de travailler avec eux. Mais là, on est allé plus loin que ça. On est allé chez le fabricant de machines industrielles, de machines à tricoter, qui s'appelle Stoll et qui avait un showroom à Clamart. Et en fait, notre styliste Antonin, qui est notre DA aujourd'hui, lui, il avait une formation de styliste maille, donc il était déjà techniquement assez solide. D'ailleurs, chez 6 et 7, c'est lui qui développait nos plans de tricot. Il avait une machine à tricoter à la main qui était dans la boutique. Et du coup, il bossait dans la boutique, comme ça, il développait des plans de tricot avec sa machine. C'était assez ouf. Et en fait, là, on va chez Stoll et Antonin passe une semaine ou deux là-bas, je sais plus. Et en fait, on fait un brief ensemble avec Anto et on leur dit les gars on veut faire un plan de tricot qui soit vraiment méga méga solide, quoi, hyper hyper résistant pour que ça se déchire pas, ça se détende pas, ça bouloche pas, etc. Et donc il a développé des centaines de plans de tricot avec eux et on a gardé le plus costaud à la fin. Et ensuite ce plan de tricot il n'était faisable que sur la toute dernière génération de machines Stoll. Et donc en fait on a été obligé de trouver un tricoteur en Europe qui avait les nouvelles machines Stoll. Et franchement par chance on a trouvé quelqu'un au Portugal.
Ok. Donc votre crowdfunding cartonne. Ce qui est et donc après le défi pour toi et pour vous, j'imagine, c'est de se dire ok, bah une fois que ce crowdfunding a marché, il faut qu'on arrive à répliquer le modèle. Mais sur votre site cette fois.
Ouais, exactement. Ouais, et là c'est le deuxième saut dans l'inconnu, c'est que tu vois des campagnes de crowdfunding qui marchent, il y en a pas mal quoi. Et par contre, faire une campagne de crowdfunding sur son site à soi. Honnêtement, à part une marque hyper niche qu'il faisait en France, cette marque aux États-Unis mais qui n'était pas non plus très connue, nous on connaissait pas quoi, on n'avait pas d'autres exemples et en tout cas on n'avait pas d'exemple de succès en plus quoi. Donc parce que même cette marque aux States, en vrai, je pense qu'elle marche, mais on savait pas trop non plus quoi. Donc on se dit bon, c'est chaud, est-ce que les gens vont faire confiance et tout. Et en fait bah là le premier jour, c'était une chemise en dénime. Le premier jour, on en vend 600. Donc deux fois plus que les pulls et donc là on se dit putain. Et donc ce jour-là, on comprend qu'en fait, c'est possible que cette marque telle qu'on l'a imaginée, elle peut exister. Elle peut fonctionner. Et donc ce jour-là, c'est pour moi, c'est presque plus d'émotion encore parce que c'est le jour où en fait, ça vient concrétiser toute la vision qu'on avait depuis le départ. Et donc c'était ouf, ouais. je me souviens très bien, je shoot un mail à l'équipe à l'époque, je pense qu'on avait peut-être embauché une personne, ouais je sais même pas, on devait être 4 peut-être, et je leur dis c'est good, c'est validé, on va changer la mode, un truc comme ça. mais donc ouais, c'est vraiment le jour où je réalise que ça peut fonctionner, cette idée qui est quand même assez chelou hein, de vendre des produits avant que de les produire, je me dis qu'elle peut exister.
Et en plus, non seulement tu vends des produits avant de les produire, mais en plus, une fois que les gens ont payé, il faut qu'ils attendent parfois plusieurs mois, ouais, avant de les recevoir, parce qu'en fait vous avez zéro stock, enfin, en tout cas ou très, ouais, peu de stock quoi.
Ouais, on n'a pas de stock. Alors maintenant, notre modèle, c'est qu'en fait, on a zéro stock de produits finis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemise ou de pull en stock. Par contre, on est obligé de stocker un peu de matière première pour pouvoir réagir vite et qui reste, tu vois, et confectionner à la demande. Et donc, du coup, au pire, on a un peu de stock de matière première, mais c'est pas grave puisque comme notre vision, c'est d'avoir un vestiaire assez restreint et de faire que des produits qui sont amenés à être améliorés, mais relancés chaque année ou chaque 6 mois. Bah en fait, au pire, le stock de matières premières, hein, tu le gardes et tu le réutilises 6 mois ou 12 mois plus tard, quoi.
Ok, d'accord.
T'as perdu.
Et donc, aujourd'hui, vous avez tout un tas de produits que vous relancez très régulièrement, c'est ça ?
Ouais, exactement. En fait, aujourd'hui, ça fait un peu plus de 4 ans qu'on existe et on a fait, je crois, 35. Peut-être qu'on a fait 40 produits maintenant, donc en 4 ans. Donc, en fait, c'est pour une marque de vêtements qui a 70 000 clients et 30 personnes dans le staff, faire 40 produits en 4 ans, c'est très très peu en fait. C'est vraiment très faible parce qu'on prend beaucoup de temps par produit, que de toute façon on a la vision d'un vestiaire assez restreint, et qu'effectivement en revanche chaque produit qu'on fait, on le relance. Donc tu vois le pull là, on l'a ressorti en septembre, c'était la V5. Et j'espère qu'il y aura.
Il continue à se vendre.
Ouais, il continue à se vendre. Il se vend de mieux en mieux même. Parce qu'en fait, là, on a de plus en plus de clients. Donc là, ouais, on a même éclaté le record. Parce que tu vois, on en avait vendu 2438 la première année. Là, on en a vendu quasiment 10 000 en septembre dernier.
Oui, donc le modèle fonctionne.
Ouais, 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 exactement. Et ça, c'était un autre truc. C'était que ce pari de dire que tu peux revendre à l'éternel, à l'infini, un même produit, qui en fait est jamais tout à fait pareil. Parce que justement, tu l'améliores d'année en année. En fait ça aussi on n'était pas sûr que ça marcherait, et en fait ça marche très bien.
Et il y a aussi un autre truc, c'est que par rapport à tout l'esprit de la fast fashion où tu achètes une fringue et après un mois plus tard ou un an plus tard elle est flinguée, il faut en racheter une nouvelle, vous avez vraiment vous l'envie de faire un produit qui dure, ce ouais, qui va aussi complètement à l'encontre de l'esprit quoi.
Ouais, carrément, même effectivement le message, et c'est pour ça que d'ailleurs le ça c'est un des trucs dans le message et dans la com d'Asphalt qui a fait mouche le plus vite et qui a vraiment permis de rassembler, je pense, une communauté, c'est le fait dès le départ, vraiment notre première phrase c'est on veut faire des fringues qui durent. D'ailleurs on avait un peu un slogan à un moment qui était Asphalt des fringues qui tiennent la route, enfin tu vois, dès le départ il y avait ce truc de t'achètes une fringue, le but c'est de la filer à ton gosse un jour quoi. Et ça en fait honnêtement c'est un discours qui existait très peu, voire pas, enfin en tout cas très honnêtement, j'ai pas du tout le sentiment qu'on ait copié ou qu'on soit inspiré là-dessus. C'est venu vraiment très naturellement avec Rodolphe et Antonin aussi d'ailleurs. Et c'est un discours qui du coup a vachement bien fonctionné. Et c'est un discours qu'aujourd'hui on retrouve dans plein de marques et c'est cool parce que je pense que c'est vraiment un changement de mentalité des gens qui était très heureusement que ça arrive quoi. Et nous, tu vois, on s'est lancé il y a 4 ans, mais franchement, c'est ouf comme la mode a changé en 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, très peu de gens parlaient d'écologie et d'impact, etc. C'était aujourd'hui, c'est la base, tu vois. C'est-à-dire que tu peux pas aujourd'hui monter une marque de vêtements sans te demander si elle va être positive pour la planète ou avoir un... c'est impossible, tu vois. Ça a pas de sens. Enfin, tu peux, hein. Il y en a plein qui le font et ça marche. Et à côté de ça, il y a aussi Primark et H&M qui continuent de cartonner. Mais en tout cas, pour des jeunes créateurs, tu peux plus ne pas avoir ce discours-là parce que, et tu peux plus avoir, la vérité, c'est que sur le long terme, ça ne pourra pas fonctionner si t'as pas cette approche-là. Parce que c'est indispensable pour la planète, parce que c'est grave la merde. Et aussi, du coup, ça devient indispensable pour les clients et c'est trop bien.
Non, mais c'est très intéressant parce que justement, j'ai écouté un des podcasts dans lequel t'étais intervenu il y a 2 ans, je pense, et on sentait déjà poindre le sujet de l'écologie, mais j'imagine que depuis 2 ans, ça a encore, en tout cas en termes de culture, ça a grandi, quoi.
Complètement. Et nous, c'est devenu vraiment tellement central dans la culture de la boîte. Maintenant, on sait qu'on a envie justement d'être une alternative extrêmement saine à cette mode des dernières années qui a été plutôt la fast fashion, qui a été très destructrice pour l'environnement et qui doit complètement se métamorphoser et faire place à une mode complètement nouvelle. Et nous, on a envie de faire partie de ces acteurs-là forts de cette mode nouvelle et qui, on l'espère, peut être grosse en volume, puisque nous, notre rêve, c'est d'un jour avoir des millions, voire des milliards de clients, mais qui soit positif, quoi.
Donc, t'es très ambitieux. Là, on revient à Richard Branson, mais quand tu dis des millions, voire des milliards de clients, t'as une vraie volonté de transformer la marque en une marque internationale, c'est ça?
Ouais, carrément. Franchement, on se met zéro limite dans l'ambition et au contraire, on se fixe des objectifs très ambitieux de croissance parce que on a envie que cette manière de consommer, de produire des vêtements, cette qualité de vêtements, qu'elle soit présente dans un maximum de placards, pour nous c'est super important.
Ok, c'était une envie dès le départ. Ça, je m'interroge toujours moi quand je rencontre des entrepreneurs sur la façon dont ils construisent leur ambition.
Ouais.
Tu vois, écoute, ce que je veux dire?
Ouais, grave. Alors c'est marrant le sujet de l'ambition parce que je pense que dès le début, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, etc., je pense que tout de suite j'ai eu une approche assez ambitieuse. Tu vois, c'est pas pour rien que mon modèle d'entrepreneuriat c'est Branson et c'est voilà un des mecs qui a fait une des plus grosses boîtes du monde. Donc j'ai toujours eu ça un peu. Après j'ai monté une marque où pour le coup mon niveau d'ambition a vachement baissé parce que du coup je voyais que ça marchait pas trop. Je pense que j'ai perdu un peu confiance en moi. Et peut-être en ma capacité à faire justement une belle boîte. Donc, je me disais, bon, voilà, c'est pas grave, je suis pas là pour faire une boîte qui un jour sera énorme, je veux une belle entreprise et tout. Et après, et en fait, je pense que je me suis menti à moi-même. Tu vois, quand je te disais que ma première boîte me ressemblait pas trop, je pense que même au sujet de l'ambition, elle me ressemblait pas trop. Et quand j'ai commencé à travailler sur Asphalt, là, pour le coup, dès le départ, je me suis dit que je voulais faire un truc gros, mais l'ambition n'a fait que grossir depuis, et je sais plus où j'ai entendu ça un jour, mais que en fait l'ambition c'est un muscle quoi, ça se travaille et du coup ça se renforce, et ça j'y crois beaucoup. Ouais. Je pense que ça s'est vraiment renforcé, mais après maintenant honnêtement je sais pas si elle pourra aller au-delà de ça parce que je pense que la vision maintenant est très ambitieuse et ça va être difficile de faire plus ambitieux que de dire qu'on aimerait être partout dans le monde et avoir des milliards de clients, quoi. Ça va être dur déjà.
Mais ça veut dire qu'après il faut l'exécuter. Ça c'est.
Ouais, exactement. Et il faut se donner les moyens. Et c'est là où honnêement je sais pas, j'ai pas encore la conviction que j'ai la capacité moi personnellement d'emmener une boîte là-bas. Par contre, je suis convaincu que cette boîte mérite ce niveau d'ambition. Et après, qui va l'emmener là-bas, ça se trouve, ça sera pas moi, tu vois. Je sais pas encore.
Ok. Ah oui, donc tu te projettes potentiellement à revendre la boîte ou en tout cas
alors la revendre assez peu en vrai ouais. Et c'est là aussi où je pense que c'est un peu même s'il en a vendu hein, mais l'influence de de Richard Branson. J'aime beaucoup l'idée de plutôt les additionner, les boîtes, que de les revendre. Mais en revanche, de plus en être le dirigeant, ouais, grave. Ça, okay. Franchement, la probabilité pour que je sois encore à la tête d'Asphalt dans 50 ans, elle est quand même extrêmement faible.
Tu te verrais, toi, monter aujourd'hui une autre boîte, c'est ça?
Aujourd'hui, non, mais demain, ouais. Et je sais pas si du coup ce serait sous le même nom ou... mais ouais, grave, moi je j'adorerais apprendre à faire d'autres choses que des vêtements. Ouais.
OK. D'accord.
J'aimerais ouais, le sandwich.
C'est vrai ?
Je reviens à mes idées de base. Ouais, je trouve que c'est dur de trouver des bons sandwichs en vrai. Et je trouve qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui aillent mettre leur misère à McDo et la fast food. En fait, de la même manière qu'il faut des alternatives à la fast fashion, il faut des alternatives à la fast food. Et il y en a, hein, il commence à y en avoir, mais je pense que demain, ça serait plus cool d'avoir à tous les coins de rue des manières de manger hyper saines, hyper bonnes et accessibles que d'avoir à tous les coins de rue Subway, McDo, Burger King et Pizza Hut, quoi.
Peut-être même que tu vas réussir à le développer en même temps qu'Asphalt, parce que si j'ai bien compris, ta boîte, elle est autofinancée.
Oui, elle est autofinancée. Alors en fait, on avait fait une levée de fonds sur la marque 6 et 7. Et en fait, comme Asphalt est dans la même structure juridique, il se trouve qu'on a des investisseurs minoritaires aujourd'hui qui sont toujours là pour le moment. Mais en tout cas, on n'a pas, depuis qu'Asphalt existe, on n'a pas relevé d'argent et donc on n'a pas d'investisseurs institutionnels, quoi, si tu veux. Et on est très largement majoritaire. Donc ouais, on est totalement indépendant financièrement.
Bravo, parce que c'est pas forcément très évident à faire, mais j'imagine que le crowdfunding aide aussi
ouais,
à...
Carrément, ouais, franchement, sans ce modèle économique, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile, mais c'est aussi une des vertus de ce modèle économique qui on a énormément. Et d'ailleurs, je sais plus si c'était en off tout à l'heure où tu me disais que on était, ah non, c'était même pas avec toi, pardon, c'était ma conversation d'avant. Où quelqu'un me disait qu'on était pas mal copié sur le business model. Moi, je trouve qu'on est très peu copié sur le business model et je suis surpris, en fait, qu'il y ait pas plus de, et je dis copié comme si on l'avait inventé, on n'a pas inventé le crowdfunding, mais en tout cas, en France, on est une des marques qui arrive avec un modèle de crowdfunding et qui fonctionne bien et il n'y en a pas beaucoup. Et je trouve qu'il y en a certaines qui se mettent dans notre roue, mais en vrai, je comprends pas pourquoi il y en a pas des plus gros qui s'y mettent et voilà, moi c'est un modèle économique auquel je crois beaucoup et je pense qu'il peut être assez massif.
Parce que peut-être qu'il y a pas des plus gros qui s'y mettent parce que tout comme toi quand tu faisais 6 et 7, tu as dû tout remettre à plat parce ouais. qu'il fallait tout changer. Je pense que quand tu es une grosse boîte et que tu te dis on va changer complètement notre modèle de production et de distribution ça doit être
ouais, un gros changement. Tu vois H&M ils créent des nouvelles marques chaque année hein, from scratch. Feuille blanche là, j'ai vu que ils avaient d'ailleurs un concept complètement dingue là, très anti écolo, mais là ils ont lancé une nouvelle marque, j'ai vu ça hier ou avant-hier, où en fait c'est un abonnement, tu payes un abonnement comme Netflix et du coup t'as accès à des produits à prix coûtant. Donc pour rentabiliser ton abonnement, t'es obligé de consommer chaque mois, ce qui pousse à la consommation. Donc c'est quand même pas franchement ce qu'il faut faire d'un point de vue écologique, mais c'est, tu vois, t'imagines le c'est tellement neuf comme modèle économique, ils sont vraiment capables de faire des trucs très très innovants. Je pense que ça viendra hein. Honnêtement, je pense qu'ils feront une marque peut-être pas que basée sur la précommande, mais je pense qu'ils feront de la précommande ouais.
J'aimerais qu'on parle de l'image du mec, parce que je pense que dans vos pubs il y a un truc marrant, c'est que, et je pense que c'était une vraie volonté à la base, c'était vraiment de mettre, vous avez notamment un votre mannequin historique là qui s'appelle Stéphane.
Ouais.
Qui est un mec qui conduit, je pense qu'il conduit une moto à un moment donné, puis il balade avec son loup dans des rivières, tu vois, ou alors il est sur un voilier où en fait il tire la voile comme ça. C'est là, ok mec. Alors moi en tant que gars, tu vois, j'ai beaucoup de mal à et pour autant vraiment je. Bah, je te disais juste avant, mais je suis consommateur d'asphalte et tout. Ouais. En fait, j'ai beaucoup de mal à me retrouver dans ce genre de mec, tu vois. Et je pense que c'était une volonté de votre part. C'est marrant parce que j'avais la sensation que c'était un peu une volonté de votre part aussi de mettre en scène cette masculinité-là. Et bon, alors, je sais pas si tu sais, mais j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire de mec où j'interroge les mecs sur leur rapport à la masculinité, si tu veux.
Okay.
L'un des trucs qui m'intéresse sociétalement en ce moment, c'est que, tu vois, une marque comme Gillette est en train de revenir sur sa vision de la perfection masculin, si tu veux, qui a été pendant très longtemps un truc qui, moi, à titre personnel, m'a vraiment plombé. Je pense qu'ils en ont pris conscience là ces dernières années de « Ok, peut-être en vrai qu'on en a rajouté beaucoup trop dans la virilité, tu vois. »
Ouais,
et,
c'est ça.
Et en fait, ça m'a étonné en fait de voir qu'une marque comme toi, je te dis ça avec beaucoup de bienveillance, hein, mais ça m'a étonné qu'une marque comme Asphalt, ouais, qui disrupte entre guillemets, alors, je déteste ce mot, mais c'est dur, disrupte le modèle en tant que en termes de production, etc. Mettent en scène des mecs qui soient, alors il y a pas que Stéphane, mais tous les mecs d'une manière générale, ils sont plutôt ils sont virils, quoi, chez Asphalt.
Ouais, c'est clair. Non, franchement, je pense qu'il va falloir qu'on fasse évoluer le truc. C'est une évidence. C'était très organique comme choix et comme manière de faire. En fait, c'était vraiment, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. C'est, on a fait le truc qui nous faisait kiffer nous, en fait, tu vois. Et on s'est pas demandé s'il fallait, à aucun moment, on s'est dit qu'il fallait qu'on représente tous les hommes. Tu vois, c'est pas ça au départ. C'est se dire, on veut que ça nous plaise, on veut que on soit les propres clients, que nos copains aussi. Et voilà, et effectivement, le truc, c'est que la marque maintenant prend de l'ampleur. On touche, tu vois, on a, je sais plus combien on a de clients. Je crois qu'on a 70 000 clients. Donc, tu vois, dans les 70 000 clients, autant te dire qu'il y a tout, quoi. Je veux dire, il y a tout type d'hommes. Donc, il est temps qu'on fasse évoluer ça, et on a quelques pistes là-dessus. Je peux pas en dire beaucoup plus que ça. C'est clair que franchement, honnêtement, tu vois, rien que la manière dont tu pitches là, le mec avec son loup, son bateau et sa moto, c'est tellement cliché. Il faut que ça évolue, quoi. C'est drôle, moi ça me fait rire à tel point on est cliché, quoi. Mais il faut que ça évolue. En même temps, faut pas qu'on perde notre ADN. Ça va pas être une mince affaire. Mais on travaille là-dessus, on veut le faire évoluer. Et puis tu vois, il y a aussi d'autres incohérences, hein, le côté d'avoir une mission hyper positive et un impact écologique le plus faible possible et de mettre des 4x4, c'est absurde aussi. Alors faut pas non plus être con et dire impossible de rouler sur une moto ou sur un 4x4 de temps en temps, tu vois, le mec qui en fait la piste qu'on a pour te dire c'est juste de prendre des hommes et de les inclure un peu plus dans leur vraie vie, tu vois. Et ça peut être des mannequins, hein, parce que c'est quand même important d'avoir un homme qui porte bien le vêtement, qui donne envie. Enfin, ça, on va pas se mentir, ça reste important. On est des vêtements, faut que ça donne envie. On est une marque de vêtements, faut que ça donne envie et que le vêtement soit bien présenté, quoi. N'importe quel vendeur dans n'importe quoi présente bien son produit. Tu vois, un mec qui vend des fruits et légumes, il fait une belle pile pour que ça donne envie, quoi. C'est normal. Mais en revanche, de prendre des gars et de se dire c'est quoi ton kiff, c'est faire du skate, bah vas-y viens, on va dans un skate park, tu mets des vêtements et on shoot. Ça c'est cool, tu vois, et ça permet de d'être peut-être un peu moins fake dans le côté notre homme c'est l'homme parfait qui a un voilier et un loup à la place d'un chien.
J'aimerais bien te voir en train de changer, tu vois, la couche de ton fils aussi, tu vois.
Tu vois, je sais pas si on arrive jusque là. Typiquement, je sais pas si, c'est un peu comme le mec des légumes qui fout ses légumes n'importe comment, ça donne moins envie, quoi. Si tu me vois en train de changer ma couche avec mon jean, je sais pas si ça va te donner très envie d'acheter mon jean.
Pourtant, tu vois, c'est l'homme de demain, quoi. Tu vois, surtout avec le congé paternité qui s'est allongé, etc. Enfin, tu vois, c'est un peu.
Bien sûr, mais je pense que justement, il faut pas, tout confondre. C'est comme parfois on nous reproche de faire trop de marketing, où les gens nous disent c'est vachement marketé. Mais quand on fait de la pub, quand tu nous vois sur Facebook, c'est qu'on est justement en train de faire de la pub et de faire du marketing. Heureusement que c'est marketé. Enfin, je veux dire, on est là pour ça, tu vois. C'est bien enrober son produit, faire des belles photos, etc. C'est essentiel au fonctionnement de notre entreprise et comme de n'importe quelle entreprise, c'est extrêmement important. Et nous, on n'a pas de honte par rapport à ça. Et à un moment, tu vois, c'est vrai qu'on fait, on fait beaucoup de pubs, on est très présent. Mais en fait, on est tellement convaincu à côté de ça que ce qu'on fait, c'est bien, honnêtement. On en est convaincu et même si c'est perfectible et on travaille à le perfectionner, c'est quand même une alternative qui est vachement positive par rapport à beaucoup de choses qui existent dans la mode. On a envie que ça soit vu, que les pages de vente, elles convertissent bien, c'est-à-dire qu'on a un beau taux de conversion sur le site. Donc pour ça, il faut que la page de vente, elle soit simple, il faut qu'elle soit belle. Il faut avoir des bons développeurs en interne, il faut avoir des bons UX designers pour que le site soit beau, il faut avoir un beau mannequin, il faut avoir un beau produit. c'est un ensemble de choses. Donc voilà, je pense que ça, tu vois, c'est pas parce que il faut qu'on remette en question le côté monomec, très viril, dans cette vision hyper cloisonnée de la virilité. Ça, il faut qu'on le remette en question. Ça veut pas dire que je vais shooter des mecs en train de changer leur gosse, quoi.
Mais c'est un positionnement, tu vois. Je le respecte, je le comprends. Et en plus, je trouve que d'une manière générale, le ton de la marque, il est très. Tu vois, il marche bien, quoi. Tu vois, on sent que. Moi, j'adore les marques qui me parlent comme je parle, quoi, tu vois.
C'est très clivant, hein. Ça plaît pas à tout le monde, ça. Et en fait, c'est drôle parce que c'est pas du tout une question de génération. Au début, on pensait que c'était un truc générationnel, tu vois. On pensait que ce ton de marque, il allait parler à des 20-35, 20-40, 25-35, bon, tu vois. Et en fait, c'est drôle parce que ce ton de marque, il est très clivant. Il y a des gens qui haïssent, des gens qui adorent. Et en fait, c'est pas du tout une question d'âge. Il y a des mecs jeunes qui haïssent, des mecs plus âgés qui haïssent. Enfin, vraiment, c'est ouf, tu vois. C'est pas du tout une question générationnelle, c'est une question de personnalité, de rapport que tu as avec les marques. Et comment t'as envie qu'une marque parle à toi? Il y en a qui disent, voilà, une marque, pour moi, ça doit avoir une certaine distance. Ça dépend du rapport que t'as aussi avec le secteur. Donc là, en l'occurrence, la mode. Si tu es un aficionados de mode, que tu es très pointu, t'as pas du tout envie qu'on vulgarise le message. T'as envie que le message, il soit extrêmement, voilà. Donc, c'est plus dépendant d'une personnalité et d'un rapport avec le secteur que d'un âge, en fait.
Il y a une question que je vais désormais poser à tous mes invités. T'es le premier à tester. Donc, désolé pour ça, tu fais cobaye. Mais, c'est quoi le truc que t'aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans la création d'entreprise?
J'aurais aimé voir cette vidéo sur le product market fit au tout départ. Cette vidéo d'Oussama Hamar, le fondateur de The Family, qui explique ce que c'est que le product market fit. Et c'est ouf à quel point c'est la base. Et c'est ouf à quel point il y a encore beaucoup, beaucoup de gens, je pense, aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est. Et je pense que tout entrepreneur devrait regarder cette vidéo. Cette vidéo ou une autre forme de d'éducation sur le product market fit, parce que Oussama est aussi un personnage très clivant, donc ça va pas forcément parler à tout le monde, mais ouais.
Ok. Bon, je la mettrai dans les liens de l'épisode, comme ça vous pourrez découvrir si jamais vous voulez vous galérez vous aussi avec votre boîte. William, merci beaucoup pour le temps passé. Merci d'avoir fait découvrir Asphalt et l'histoire d'Asphalt. Et puis, je te souhaite d'avoir des millions et des milliards de clients dans les années à venir. À bientôt. Bonne journée.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
8Cast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.